Vous écoutez, on lit pour vous.
Du saumon avec Pierre-Yves Laure, un texte de Jean-Yves Girard paru en avril 2024 dans l'actualité. L'un a foulé l'entrée du Paris Grill le premier. Prévisible, il habite à 1 kilomètre de ce restaurant de Sainte-Foy, dans la maison de son enfance rachetée à ses parents. L'autre s'est tapé 12 stations de métro, 250 kilomètres en train, puis 4 kilomètres en taxi de la gare au lieu du rendez-vous. Pour débarquer, avec 2 minutes de retard. Bon prince, celui que tous, intimes et inconnus, appellent P.Y., les initiales de son prénom prononcées à l'anglaise, l'a accueilli avec un sourire. Souvent associé à des termes tels que fougue et enthousiasme, l'animateur et producteur est, en ce vendredi glacial de la mi-janvier, peu fougueux et plutôt flegmatique. « J'arrive de Curaçao », dit-il, levé au creux de sa banquette, visiblement bien dans son coton ouaté au motif léopard. Des vacances en famille, les pieds dans le sable, qui se poursuivront à Québec, les bottes dans la gadoue. Je suis privilégié, j'ai bien gagné ma vie l'année passée, alors en janvier et février, je ne fais rien, à part écrire et aller faire de la musique en Jamaïque avec des amis. Il est vrai qu'en 2023, Pierre-Yves Laure a promené sa fougue et son enthousiasme proverbiaux sur plusieurs chaînes et pour divers publics. Les admirateurs de Neil Armstrong, bulletin spatial Explora, les amateurs d'un talk show à trois têtes, Deux hommes en or et Rosalie, Télé-Québec, de questions épineuses du genre « Quel pays d'Asie a un dragon sur son drapeau ?»« Sans génie, Radio-Canada ?» Des livres « Pète et répète »,« La véritable histoire » et « Cher dragon », Conte puis raconte, tout TV, de sauterie avec Vincent Vallière et Martine Sinclair à la Plaza Saint-Hubert, Plaza Plaisir Télé-Québec. À cette liste déjà longue, il faut greffer le gala des prix Gémeaux. En septembre dernier, Pierre-Yves Laure a pris le relais de Véronique Cloutier après 9 ans. Il y a quelque chose d'inconscient à accepter ce genre de mandat, dit-il, car cette remise de trophée patauge depuis des siècles dans une mécanique lourde et une guerre de clans. Et la décision, annulée depuis, de créer des catégories non genrées n'avait fait qu'ajouter du fiel aux bisbilles. C'est sûr qu'il y a de la chicane. C'est un terrain miné. J'aurais pu rester chez nous à cause des tensions, j'y ai pensé, mais je suis fier. Je n'ai pas eu peur d'avoir peur. Honorer tous ces contrats implique un balai incessant sur l'autoroute 20. N'aurait-il pas été plus simple et moins générateur de GES de déménager plus près de l'action? Peut-être que je serais différent, que je me serais dilué, fondu dans une mon-réalitude et que j'aurais perdu mon épice secrète. Cachetier va. Et tant mieux si être un fidèle fidéen, gentilé des habitants de Sainte-Foy, force certaines personnes à prendre le train et à élargir du coup leurs horizons. Beaucoup de Montréalais connaissent très peu Québec, soutient mon invité. Ça m'étonne. Je leur dis que je vis ici et ils me répondent « Ah oui, paraît que c'est beau ». Sans vouloir lancer une énième querelle de clocher, beau n'est pas l'adjectif exact qui vient à l'esprit d'une personne, disons un Montréalais, découvrant le boulevard Laurier. Quant au Paris Grill, il est situé dans le complexe Jules Dallaire, décrit comme une masse lourde sans imagination ni élégance, mal intégrée au trottoir et au voisinage par un chroniqueur local dans le Soleil en 2015. C'est vrai que ce n'est pas très beau, reconnaît Pierre-Yves Laure, mais quand c'est l'endroit d'où tu viens, que tu l'as vu se transformer, tu deviens attaché à la station-service, à l'architecture laide des brutalistes de la place Laurier. Sainte-Foy, c'est la trame de fond de ma jeunesse et de mon évolution. Chaque coin de rue a des souvenirs. Trinquons alors à la station-service. Vin, apéro, un thé vert. Quis-je? Où est passé le Got Party, DJ à 16 heures, figure de proue de l'émission Le Bon Mix, TVA 2015, avec sa chanson thème « Tout le monde fait la fête, on s'amuse comme des bêtes, on en profite avant de disparaître ». Qu'est-il advenu du co-auteur du livre « Le bon mix, cocktail, musique, ambiance » des éditions de l'Homme 2015, dont un exemplaire a aussi fait le voyage? « Wow !» s'exclame le pro du shaker devant son livre de recettes qu'il n'a pas feuilleté depuis belle lurette. « Mon intérêt pour les cocktails s'est estompé, » dit-il sobrement. « Maintenant, je bois de temps en temps. Ça ne me tente plus de me préparer un Negroni. » Ou un Defenquebec. Regarde page 147 PY. Gin, jus de canneberge, champagne. Tu t'en souviens? Non, pas vraiment. Ressasser ces libations d'une autre époque l'ennuie. Discuter de sa propre mort un jour à Québec ou ailleurs, ça, oui. Sa devise n'est-elle pas la locution latine « memento mori »,« rappelle-toi que tu vas mourir » ? L'empereur Marc Aurèle, Sénèque, plusieurs philosophes considérés comme stoïciens l'ont dit. « Médite sur ta mort chaque jour, contrôle ce que tu peux, mais ne te soucie pas des choses que tu ne peux pas changer. » Je trouve que ça amène un certain détachement et une gratitude. Le départ des gens qu'on aime. Celui de sa mère en juin dernier, quelques heures après qu'il eut animé le spectacle de la Saint-Jean à Montréal. C'est une autre histoire. Faire mon deuil n'a pas été évident. Il a salué sa mémoire sur ses réseaux sociaux en partageant une photo prise en 1979, le jour de son adoption, à 11 mois. Né de mère et de père inconnu à Torbec, ville côtière dans le sud d'Haïti, recueilli dans un orphelinat de Port-au-Prince, Pierre-Yves-Laure babillait alors sous le nom de Bonnie. « Je suis retourné en Haïti deux fois, dit-il, en attaquant son saumon en tartare. » En 2012, j'accompagnais l'ex-hockeyeur Georges Larac pour Vision Mondiale. Il s'y est aussi rendu en 2017, à l'occasion d'une mission humanitaire organisée par la radio C'est quoi, où il officiait au micro la fin de semaine. Des voyages émotivement exigeants. Je n'ai pas visité l'orphelinat, je m'étais dit une chose à la fois. Je me suis permis d'y aller à mon rythme. Un sujet délicat, abordé ailleurs, d'un ton généralement neutre, sauf aujourd'hui. Peut-être que le troisième voyage. Le fils de Monique Philly et d'Yves Laure l'a déjà souligné. Son adoption par une famille québécoise aimante a été un cadeau du ciel, enfin, si Dieu existe. Quand on voit ce qui se passe en Haïti, il n'a jamais fait l'impasse sur les tiraillements vécus à l'adolescence dans une société immaculée. J'étais le point noir sur la photo de classe. Je peux encore te nommer tous les Noirs qui jouaient pour les Nordiques ou les Expos parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Je les remarquais, j'avais leur carte et j'en étais fier. Je crois au pouvoir de la représentativité. Vous écoutez « Du saumon » avec Pierre-Yves Laure, un texte de Jean-Yves Girard paru en avril 2024 dans l'actualité. Petit Pierre-Yves ruait dans les brancards. C'était difficile sur les plans scolaires et familial, à tel point que ses parents désemparés l'ont placé dans une famille d'accueil, une révélation faite à l'ex-maire de Québec, Régis Labeaume, dans le cadre de l'émission « L'autre midi à la table d'à côté ». Et celui-ci de rétorquer « Puis why ?» Je me suis déjà dit que si j'étais noir à Québec puis que j'avais 16 ans, il est bien possible que je crisserais le feu à une coupe de char. Ce midi-là, à la table à côté des toilettes, il n'a pas poussé plus loin les confessions, à part ajouter « J'aurais pu mal tourner ». Son salut, le sportif l'a trouvé dans les arts. Le théâtre, la danse, la musique, ce sont des activités qui faisaient que le temps s'arrêtait, qu'un moi que je ne connaissais pas sortait. On me faisait confiance. S'il estime être plus cabotin que comédien, Pierre-Yves fait preuve d'un réel talent pour le jeu dans le Bulletin spatial, deuxième saison à compter du 16 avril. Une production Saturne 5, la boîte qui lui sert de véhicule pour mettre en orbite ses multiples passions. Mission lunaire, littérature jeunesse plongée sous-marine, Les Flots TV5. On y voit l'unité en chef d'antenne rétro, émule de Walter Cronkite, puis en intervieweur aux côtés de David Saint-Jacques. Une aptitude aiguisée pendant 7 ans auprès de Patrick Lagacé à Deux Hommes en or. À ce propos, pourquoi a-t-il annoncé en mars dernier qu'il quittait cette émission à la surprise générale? J'étais heureux, mais je sentais que si j'avais fait une saison de plus, il y aurait eu, je ne dirais pas une lassitude, mais une certaine redondance dans mes émotions. Je ne savais pas alors que Plaza Plaisir ou les prix Gémeaux m'attendaient. Je me lançais dans le vide. Dans le vide, mais avec un parachute à toute épreuve. Il cite des noms, Danny Meloul, Sophie Maurras, qui ne signifient que dalle pour le vulgum pecus, mais qui ont une importance capitale pour tout ce qui grouille en télé. La première est vice-présidente principale à Radio-Canada. La seconde, première directrice culture, variété et société, également à la Société d'État. Elles sont très bienveillantes envers moi. Une relation s'est installée avec Radio-Canada depuis 7 ans. On m'a dit « On a envie que tu fasses partie de notre famille ». On m'a fait enregistrer des pilotes, dont une quotidienne qui n'a pas marché. Vu de l'extérieur, Pierre-Yves Laure a plus que rempli ses promesses depuis « Love Story 6, la revanche » et « A tout pour être heureux ». Non? Je ne vais pas me plaindre, je suis bien entouré, j'ai 45 ans. L'automne dernier m'a épuisé. Ces temps-ci, je prends des pilules pour dormir. Je vis des doutes comme tout le monde. Élever 2 ados, ce n'est pas évident, et je subis la pression d'être en affaires dans un monde télévisuel en bouleversement. En vieillissant, je commence à comprendre qu'il n'y en aura pas des moments parfaits où tu te dis « Je franchis le fil d'arrivée, j'ai atteint le bonheur. » Oui, mais ma main percute un verre d'eau qui éclabousse PY. « Oh non! Ça va, ça va. C'est juste de l'eau, pas du vin rouge. La vie est pleine de rebondissements. J'étais parti dans une envolée et un verre me tombe dessus. Tu vas l'écrire dans ton article? Jamais en 100 ans. Qui voudra ensuite partager un repas avec un journaliste aussi maladroit? » C'était du saumon avec Pierre-Yves Laure, un texte de Jean-Yves Girard, paru en avril 2024 dans L'Actualité.
Les libraires craquent, essai québécois, 7 suggestions des libraires indépendants, paru le 11 juin 2024 dans Les Libraires. 1. Godin, Jonathan L'Hivernois, Ruba Gazal, Édition Luxe. Jonathan L'Hivernois opère ici un véritable travail de fond sur ce fascinant personnage, nous ayant quitté trop tôt. Grâce à de nombreuses entrevues menées avec les proches de Godin, de même qu'en obtenant un plein accès aux archives et en s'appuyant sur les travaux de celles et ceux qui l'ont précédé, l'auteur établit une passionnante biographie de référence qui fera date, en plus de se lire comme la chronique vécue de l'intérieur, de près de 60 ans d'histoire politique et culturelle du Québec. Avec admiration, mais sans la moindre trace de complaisance, il met en relief les contradictions de celui qui fut tour à tour poète célébré, éditeur inspiré de parti pris, député à vélo et ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration. Par Thomas Dupont-Buist, Librairie Gallimard. 2. Le drame des enfants parfaits, Céline Lamy, édition Atelier 10. Atelier 10 nous propose un essai court mais percutant, cette fois sur la surmédicalisation des enfants et la volonté des adultes à les inciter à grandir dans un moule précis. Cet essai nous invite à nous remettre en question comme parents, mais aussi simplement en tant qu'humains. Comment imaginer l'avenir si nous tentons de modeler nos jeunes à l'identique, à coups de médicaments et de diagnostics, et si nous ne nous intéressons pas vraiment à ce qu'ils vivent et les rend différents les uns des autres? Céline Lamy nous convie à revenir à une éducation plus naturelle et à embrasser nos petites pousses imparfaites comme elles sont. Un texte touchant et à lire, que vous ayez des enfants ou non, par Noémie Courtois, Librairie Carcajou. 3. Rue du Plessis, ma petite noirceur, Jean-Philippe Plot, édition Luxe. L'animateur et réalisateur à Radio-Canada raconte dans ce roman, mettons, sa migration intérieure. Issu d'une famille ouvrière et peu scolarisée, il n'était pas prédestiné à devenir un intellectuel. Il a grandi sur la rue Duplessis à Drummondville, dans la pauvreté économique et culturelle, l'intimidation, la violence, la peur de l'inconnu, l'hypocondrie et l'anxiété. Il souligne la déchirure sociale vécue lorsqu'il a amorcé ses études en sociologie, ainsi que l'amour qu'il ressent pour ses parents. D'ailleurs, il s'adresse régulièrement à eux, au fil des pages, sans mépris, en espérant qu'un jour, ils liront ce livre. Un récit sensible, qui ratisse bien au-delà de sa famille et qui rend compte d'une réalité sociologique trop souvent occultée. Par Julie Collin, Librairie La Liberté. 4. Ils vivent le siècle, des hashtags aux révolutions, Mélanie Loisel, édition de l'Aube. Après, ils ont vécu le siècle, de la Shoah à la Syrie, en 2015. La journaliste et spécialiste en relations internationales Mélanie Loisel offre une trentaine d'entretiens avec des militants, des travailleurs humanitaires, des survivants et des personnalités politiques. Certains sont directement liés à l'actualité ou mettent des événements en perspective. De nombreux témoignages sont bouleversants et nécessitent parfois de prendre une pause avant de poursuivre la lecture, tandis que d'autres sont profondément inspirants. Chacune des entrevues est menée avec douceur et professionnalisme par l'autrice et, tout comme le volume précédent, des pistes de solutions sont émises par des gens sur le terrain, plusieurs adressant des messages aux jeunes et aux moins jeunes. Au risque d'être cliché, un ouvrage nécessaire pour comprendre notre époque. Par Julie Collin, Librairie La Liberté. 5. Tricoteuse et dentelière. Catherine Voyer-Léger, Lucille de Pesloin, Zéa Beaulieu-April, Orane Thibault, Karine Fournier, édition Marchand de feuilles. Dans ce collectif, les femmes nous parlent de leur passion pour les fils, la laine, la dentelle et les tissus. Certaines confectionnent leurs vêtements afin de lutter contre la surconsommation. D'autres utilisent leurs créations comme objet de militantisme pacifique, pour dénoncer la perfidie du culte de la perfection. Quelques-unes y voient un outil pour apaiser leur anxiété. La majorité a le sentiment d'appartenir à une même communauté qui désire préserver ses savoirs ancestraux. Mais toutes ont la volonté de s'exprimer par leur art en toute liberté. Une lecture qui saura mettre des mots sur votre passion pour les arts manuels et qui vous donnera envie de sortir aiguilles et crochets. Par Isabelle Rivet, Librairie Lulu, Mascouche. 6. Faire la romance, Sarah Maud Beauchesne, édition Cardinal. Dans ce récit réflexif, Sarah Maud Beauchesne s'intéresse à la question de sa vie, être ou ne pas être mère. Elle songe à ce que les deux choix impliquent et pose des questions intimes quant à sa sexualité, à ses désirs et à ses aspirations. On reconnaît le style poétique et la plume imagée nous ayant charmés dans « Cœur de Slush » et qui, cette fois, nous permet de faire une incursion dans des observations plus personnelles. Certaines tournures de phrases nous font rire, alors que d'autres nous touchent profondément et nous font verser quelques larmes. Un livre dans lequel plusieurs se reconnaîtront et qui fait du bien grâce à son caractère authentique. Par Léonie Boudreau, librairie Les Deux Sœurs, Sherbrooke. 7. Le corps que j'ai maintenant, Jessica Broder, édition Cardinal. La course vers la minceur n'a pas été de tout repos pour Jessica Broder. Elle aborde sa bataille des troubles du comportement alimentaire avec humilité. De fil en aiguille, la perception de son corps a été biaisée par l'obsession de la minceur et du physique parfait. Entraînements intensifs et quotidiens, pensées envahissantes sur le décompte des calories ingérées, elle pleurait de faim dans le seul but de gagner des compétitions de fitness. Jusqu'au jour où tout s'écroule. Elle n'en peut plus. Elle consulte une nutritionniste et une psychologue pour retrouver une saine relation à son corps. Le chemin a été ardu, mais elle gagne au change avec une vie épanouie. Jessica Broder est sortie de ce périple avec des kilos en trop, selon les codes sociétaux. Cette lecture est un vent de fraîcheur parmi tous les ouvrages sur le sujet, par Amélie Simard, librairie Marie-Laura, Jonquière. C'était Les libraires craques, essai québécois, 7 suggestions des libraires indépendants, paru le 11 juin 2024 dans Les libraires.
Les paternels, avec ou sans Maybe Watson. Un texte d'Olivier Boisvert-Magnan, paru le 1er septembre 2023 dans le magazine Nouveau Projet. 3 ans après le départ de Maybe Watson, au cœur de la seconde vague du mouvement « Mot clic, moi aussi », À la Claire Ensemble rebâtit son univers musical avec audace et originalité sur les paternels, laissant toutefois transparaître une amertume qui, au fil de l'album, finit par devenir irritante. Rien n'est clair à 100% sur le 7e album d'À la Claire Ensemble. Pour la première fois depuis les débuts du groupe, il y a près de 15 ans, ce manque de précision, de concision et de sens dans les textes rend le produit final moins digeste. Les sujets abordés sont périlleux. On évoque maintes fois la culture de l'annulation et les woke. Et même si les gars d'À la Claire Ensemble ne prennent que très rarement position dans leurs textes, on comprend, ou plutôt on devine, une partie de leur position générale face à toutes ces thématiques brûlantes d'actualité. La société est à la dérive et le bon sens se perd. Alors qu'Eman et KNLO prennent une approche nuancée, subtile et fine dans leurs textes, Robert Nelson sort de ses élucubrations bas-canadiennes habituelles pour envoyer des flèches plus directes. Ici et là, dans l'album, on décèle dans son discours une forte amertume. Une amertume qui atteint des sommets sur « Forgot About What », une relecture du légendaire duo de Dr. Dre et Eminem, « Forgot About Dre », dans laquelle Maybe Watson est érigé en vénérable légende du rap québécois. On soupire en entendant quelques passages que ne renierait pas une bonne partie des chroniqueurs-chroniqueuses d'un certain empire médiatique. C'est le « cancel culture ». La censure est partout. Peu importe ce que t'en penses. À partir de maintenant, on peut pas dire tout. Faut se la fermer. Quand t'es pas dans le boot. Robert Nelson. Au-delà de son flow athlétique, qui retentit avec aplomb et dynamisme tout au long de l'album, on cherche, bien souvent en vain, l'humour, le recul historique et les envolées philosophiques saugrenues, mais si rafraîchissantes, qui ont participé à construire sa renommée dans le paysage rap local. Parlant de recul, est-ce qu'il était trop tôt pour ramener Maybe Watson? Le rappeur déchu, qui a été expulsé du collectif après que les membres ont été informés d'une histoire inacceptable le concernant, reprend le micro sur Carte postale, la deuxième chanson de l'album. Difficile de faire mieux pour casser le party, surtout après une formidable introduction comme la brillante à la Clairefontaine. Au menu, piano-violon plaintif et texte saisissant, narré par un Watson à fleur de peau qui s'adresse à ses anciens collègues d'À la Claire, soi-disant en direct d'un séjour rédempteur sur le chemin de Compostelle. L'exercice est bien fait, presque touchant par moments, mais on se pose des questions sur sa pertinence. Qu'est-ce que Watson cherche à nous dire ici? Qu'est-ce qu'il a appris du scandale qui lui a coûté sa carrière musicale? Chose certaine, on le sent davantage dans la victimisation que dans la contrition. Heureusement, il y a des passages plus légers sur les paternels, et pour ça, on doit remercier Claude Bégin, qui nous offre des moments hilarants de pastiche musicale, « J'ai vu » sur le dos, en reprenant les codes du folk, de la chanson française ou des standards jazz du milieu du 20e siècle. Eman nous fait aussi plaisir à plusieurs reprises en incarnant divers personnages fantasques qui lui permettent de dynamiser son flow et son approche mélodique. Il est tout à fait génial sur la Bomb House, pas fou le mec, un époustouflant voyage de près de 9 minutes dans l'univers conspirationniste. Au volant de toute cette offrande, à titre de réalisateur et producteur, on retrouve un blooper au sommet de sa forme. Visiblement inspiré par les explorations néo-funk de l'album Sainte-Foy de KNLO et par les teintes néo-soul chaleureuses de Soul Urge de la chanteuse Maud Lee, deux albums qu'il a composés au cours des 4 dernières années, le musicien comble le criant manque de refrains accrocheurs de Les Paternels par des compositions rap progressives qui font la part belle au jazz. Sa collaboration avec le trompettiste Nick Boulay sur les excellentes « Ton ami conspire » et « Les étapes du deuil » donne une profondeur insoupçonnée à l'album. Bref, ce 7e album fait preuve d'une belle évolution sur le plan musical. Mais du côté des textes, la folie emblématique du collectif nous manque. Les paternels diluent l'essence d'À la Claire ensemble. C'était « Les paternels » avec ou sans Maybe Watson, un texte d'Olivier Boisvert-Magna paru le 1er septembre 2023 dans le magazine Nouveau Projet.